BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission l'association de la semaine. Et aujourd'hui, je reçois Alain Boudou, secrétaire au sein de la Ligue des droits de l'homme du Mantois. Alain Boudou, bonjour.
Bonjour.
Première question, comment vous définiriez la Ligue des droits de l'homme ?
Alors, la Ligue des droits de l'homme, c'est d'abord une association au niveau national qui prend des positions citoyennes sur les problèmes du monde, de la France, de ce qui se passe dans l'actualité, qui aussi agit pour en justice ou auprès du Conseil d'État pour les lois nouvelles, pour défendre la liberté, l'égalité, la solidarité. Et puis ce sont des antennes locales, comme ici la section de Mantes-la-Jolie et du Mantois. Il y a une action aussi bien de convaincre les gens, de parler aux jeunes, mais aussi de permanence, de faire des permanences qui permettent l'accueil des personnes qui ont des problèmes d'accès aux droits. C'est-à-dire, ici, en gros, dans la région, il s'agit essentiellement de personnes qui ont des problèmes de titre de séjour.
Du coup, vous, où êtes-vous situé? Où est-ce qu'on peut vous trouver?
Alors, nous avons un local qu'on nous prête, qui se trouve à Mantes-la-Ville. On est 9 rue Edmond de Beaumarchais. Mais pour venir à la permanence, il faut prendre un rendez-vous.
On va revenir sur ces permanences et sur les rendez-vous que vous prenez. Avant cela, on revient sur les principes que défend la Ligue des droits de l'homme. En quelques mots, quels sont ces principes?
Alors, les principes, c'est d'abord de lutter contre les discriminations, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre le sexisme, pour l'accès de tous à la justice, aux services sociaux, aux services publics, pour la défense des personnes sans droit et qui ont besoin d'aide pour faire valoir ce à quoi elles ont droit. On voit que ce que l'on défend dépend aussi du moment et de la société dans laquelle on est.
Et un mot sur votre équipe au sein de la Ligue des droits de l'homme du Mantois?
Alors la Ligue des droits de l'homme au niveau national, c'est à peu près 10 000 adhérents. Ici à Mantes, on est une trentaine, sachant que pour faire les permanences, pour répondre au téléphone, pour organiser les choses, évidemment les membres actifs sont moins nombreux, on est à peu près une dizaine à essayer de faire bouger les choses.
Et donc les permanences, quand est-ce qu'elles ont lieu?
Alors les permanences ont lieu tous les mercredis soirs à partir de 18h. Et là, on reçoit les gens qui ont pris rendez-vous et qui viennent nous expliquer quels sont leurs problèmes et on les conseille sur ce qu'il faut faire. On les aide parce que pour beaucoup de personnes, le premier handicap, c'est la difficulté avec la langue, c'est la difficulté de lire et écrire, c'est la difficulté de comprendre les problèmes légaux, comment on fait pour accéder à ces droits, comment on fait pour... Alors maintenant, avec Internet et les plateformes et tous ces formulaires qui sont en ligne, beaucoup de gens sont complètement perdus. De ce fait-là, elles n'essayent même plus d'accéder à leurs droits ou ce qu'elles pourraient avoir. Donc on les aide pour ça. Et puis aussi, on prend contact avec, par exemple, la préfecture pour soulever tel ou tel problème. Et on accompagne les gens quand ils sont convoqués. Par exemple à la préfecture, à la sous-préfecture, au commissariat, pour les aider à pouvoir s'expliquer.
Alors vous l'avez évoqué, la principale demande lors de ces permanences, c'est les demandes de titres de séjour. Bah, expliquez-nous le parcours, de tout le cheminement qu'il faut pour parvenir à faire obtenir ces titres de séjour à ces personnes étrangères. C'est un parcours compliqué.
Alors la première chose, c'est que toutes les sections de la demande de la Ligue des droits de l'homme n'ont pas les mêmes objectifs ou disons le même activité principale. Ici à Mantes, où la population est très partagée, c'est une activité intense parce que des gens qui ont des problèmes de titre de séjour, des problèmes d'être reconnus comme étant sur le territoire, eh bien dans notre ville, dans notre région, il y en a beaucoup. Ils vivent là, ils vivent comme ils peuvent, ils ont droit à rien, ils ont accès à rien. Et pourtant, ils travaillent, et pourtant les enfants vont à l'école, ces familles, eh bien, il faut les aider. comment ça se passe généralement? Eh bien, généralement, les personnes qui arrivent de l'étranger, les migrants, comme on dit, commencent par demander l'asile. Parce qu'ils pensent que c'est ça, la France, terre d'asile, n'est-ce pas? C'est à ça qu'ils pensent. Mais bien sûr, vous savez que sur 100 personnes qui demandent l'asile, 30 seulement l'obtiennent. Il reste 70 à qui, au bout de la démarche, on dit ben, « c'est fini, rentrez chez vous ». Vous n'avez le droit à rien, vous n'avez pas le droit de rester là, vous devez repartir. Quand on voit que ces personnes ont mis, généralement, si elles viennent d'Érythrée, si elles viennent d'Afghanistan, si elles viennent de Côte d'Ivoire, si elles ont pu mettre 2 ans pour arriver jusque-là, que la procédure elle-même a pris plus d'un an et demi, eh bien on leur dit au bout de ce temps-là, écoutez, rentrez chez vous. Bien sûr, elles ne peuvent pas, parce qu'elles ont emprunté de l'argent, parce que pour faire le chemin, parce qu'elles ont vécu sur le parcours tellement de drames et de misères que repartir n'est pas envisageable. Et puis elles ont le temps d'avoir des contacts, de lier des amitiés ou même de se marier, d'avoir des enfants. Et donc elles restent. Et là elles sont sans droit. Il n'existe que 2 droits qui sont très importants. C'est premièrement l'aide médicale d'État, c'est-à-dire l'accès à la santé pour tous. C'est-à-dire qu'on ait des papiers, qu'on n'ait pas de papiers, on a le droit d'être soigné. Car on ne peut pas admettre que des gens meurent parce qu'ils ne sont pas soignés dans nos rues, dans nos quartiers. Le deuxième, c'est que beaucoup de personnes sont à la rue. Ils n'ont pas de logement. Ils n'ont pas, puisque c'est difficile, hein. Ils n'ont pas d'hébergement, ils sont à la rue. Eh bien, le 115 doit leur fournir un hébergement parce que c'est inconditionnel, même quand on n'a pas de papiers. Le 115 doit faire quelque chose pour vous. Et évidemment, le 115 est absolument débordé. Beaucoup des gens qui font appel au 115 n'ont pas de réponse, en particulier les hommes. Néanmoins, c'est important de savoir que on a le droit d'être hébergé, de ne pas être à la rue. Donc ce sont les 2 seuls droits qu'ils ont. Tout le restant, ils n'y ont pas accès. Pas d'assistante sociale, pas d'aide, rien. La loi a été durcie au cours des 20 dernières années, tellement durci que pour tous ces gens, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est faire ses valises, repartir. Alors, avec quel argent, dans quelles conditions, ça, personne ne l'évoque. Toujours est-il que il a bien fallu à un moment qu'il y ait quelques mesures qui permettent de faire que la cocotte minute puisse ne pas exploser. Et donc, c'est ce qu'on appelle la circulaire Valls, en 2012, qui dit que dans certaines circonstances, dans certains cas très précis, on peut entrer dans une procédure de régularisation. Et c'est là où les gens ont besoin d'être aidés parce que c'est un peu un maquis, un labyrinthe administratif. Mais néanmoins, il est important de dire que lorsque l'on est en France depuis 5 ans et qu'on sait le prouver, c'est-à-dire qu'on a les papiers qui montrent qu'on est en France, des factures, des impôts, tout ce qu'on veut, hein, qu'on est en France depuis 5 ans et qu'on a un enfant qui est à l'école depuis 3 ans, alors, parce que l'enfant va à l'école depuis 3 ans et qu'il s'est intégré avec ses camarades, alors il y a une possibilité de demander une régularisation. Voilà un exemple. Lorsque l'on vit, on est depuis 5 ans en France, que l'on vit en couple avec quelqu'un qui a un titre de séjour et depuis 18 mois, on vit ensemble, on s'est montré qu'on vit ensemble depuis 18 mois, alors on peut entrer dans une procédure de régularisation. Lorsque on est en France depuis 5 ans, et que bien qu'on n'a pas le droit de travailler, bien qu'un patron n'a pas le droit de vous embaucher, si on arrive à travailler tout de même, et qu'on peut montrer qu'on a travaillé pendant au moins 8 mois dans les 2 dernières années, et qu'on a une promesse d'embauche, alors on peut rentrer dans une procédure de régularisation. Voilà, ça c'est des cas bien précis. Il faut rentrer dans ces fenêtres-là. Mais à ce moment-là, on va demander un rendez-vous à la préfecture, puisque depuis le Covid, tout ça se fait par Internet.
Par Internet, hein, oui.
Évidemment. Et donc, rendez-vous à la préfecture. Qui va répondre 1 mois, 2 mois après, pour donner un rendez-vous 6 mois plus tard. Là, on dépose un dossier qui doit être très complet avec beaucoup de documents. Et après, si ça marche, si on rentre bien dans la fenêtre, dans les conditions et qu'il n'y a pas de suspicion de fraude, eh bien, bien sûr, à ce moment-là, quand on a son titre de séjour, eh bien, il faut le payer. puisque pour avoir un titre de séjour, ça va vous coûter 425 €. Donc, quand vous êtes un couple, par exemple, ça fait deux fois plus. Bien sûr, si vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas le droit de gagner d'argent. Et donc, c'est déjà dur pour manger tous les jours. Et là, en plus, on vous demande de payer 425 € pour avoir le droit de travailler et d'être en France. Donc, voilà comment ça se passe. Et ça, c'est un, on voit bien que c'est un long chemin, mais qui, à la fin, fait qu'un certain nombre de personnes finissent par avoir un titre de séjour, d'être régularisées et de rentrer dans la vie normale.
Et alors, comment vous accompagnez ces personnes pour l'obtention de ce titre de séjour ?
Bien d'abord, il y a tellement de cas différents et la loi est tellement compliquée.
Complexe, ouais.
Il faut à chaque fois bien comprendre la situation, donc les aider à analyser cette situation, puis savoir quelle démarche à faire, puisque pour savoir ce qu'il faut faire, ben il faut aller sur le site de la préfecture et ça change tout le temps, où là on dit il faut télécharger le formulaire, il faut remplir, etc. Donc on aide à faire tout ça, on aide à faire à avoir le rendez-vous, on aide à faire le dossier, et puis on accompagne les gens à la préfecture, parce que des fois ils ont des problèmes rien que pour comprendre ce qu'on leur demande. Parce que le vocabulaire employé au guichet dans l'administration n'est pas toujours évident pour tout le monde. Alors, sur le fait de parler la langue, il y a le problème de la langue, mais au bout de quelques années, on arrive à parler. Évidemment, il y a des cours de français dans les CVS, mais ce sont pour les gens qui ont des titres de séjour. Pour ceux qui n'en ont pas, il n'y a pas de cours de français. Parce que ce n'est pas prévu. Les subventions ne permettent pas d'accepter ça. Il y a quelques associations qui donne en marge des cours pour les gens qui n'ont pas de titre de séjour, parce que parler français, c'est la première intégration. Mais ce qui est crucial de bien comprendre, c'est que vous soyez étranger, que vous soyez français, si vous ne savez pas bien lire, écrire, comprendre les formulaires et vous servir d'Internet, vous êtes très mal. Si on sait qu'il y a 12% de gens qui ne savent pas correctement lire et écrire en France, ben vous voyez que on est en train de marginaliser toute une population et pas seulement les étrangers. Et tous ces gens-là, eh bien, il faut qu'ils soient aidés et il faut que l'administration comprenne que tout ne peut pas se faire par Internet parce que tout le monde n'a pas accès à l'informatique, tout le monde n'a pas le savoir-faire pour remplir les formulaires sur Internet et comprendre ce qui se passe et même pour lire et écrire. Voilà, il y a encore des mutations à faire dans l'administration, dans les services publics et parapublics, de telle façon que tous aient accès à ce à quoi ils ont le droit.
Et donc vous, votre rôle, c'est finalement d'accompagner, d'aider ces personnes
voilà.
dans leur démarche.
Mais aussi au niveau national,
oui.
D'essayer de faire pour que la loi évolue, pour que des possibilités s'ouvrent, pour que des restrictions sautent. De telle façon que, par exemple, cette idée que tout va se faire par Internet et qu'on ne pourra plus avoir un interlocuteur humain, on ne pourra plus déposer un dossier papier quelque part, et ben ça, après la saisine par la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations, le Conseil d'État a dit que non, il faut qu'il y ait toujours une solution alternative. Parce que les services publics, c'est pour toute la population, pas seulement ceux qui se débrouillent sur Internet. Et ça, c'est très important.
Donc, vous luttez aussi au niveau, finalement, juridique.
National. Voilà, tout à fait.
Pour cet accès aux droits. Alors, vous participez aussi au cercle de silence.
Alors, il y a plusieurs choses. La Ligue des droits de l'homme du Mantois n'est pas toute seule. Il y a dans le Mantois d'autres associations, comme l'ASTI, qui travaille pour défendre les étrangers, d'autres associations qui aident les personnes en difficulté, qui sont des associations humanitaires, qu'elles soient confessionnelles ou non. Et toutes ces associations se connaissent, travaillent ensemble, partagent des choses, essayent de s'entraider. Il y a sur le Mantois un vrai maillage, un vrai réseau d'associations qui se complètent et qui s'entraident. Alors, parmi les choses qui se font, le cercle de silence est une façon de protester contre l'accueil indigne fait aux étrangers. Elle réunit des gens qui viennent d'horizons différents, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient athée, qu'il soit, voilà, des différentes obédiences politiques, dans une protestation muette qui consiste le samedi matin une fois par mois, de se tenir en rond avec une petite lampe au milieu et de dire nous sommes là pour montrer que même si on ne nous entend pas, nous sommes là pour dire que il faut accueillir dignement les étrangers.
Et d'ailleurs,
cette idée fondamentale qui est d'arriver à faire que des associations et des personnes qui ont des convictions religieuses différentes, des convictions politiques différentes, et qui viennent d'horizons différents, puissent travailler ensemble pour aider, pour être solidaires des personnes qui sont en difficulté dans le Mantois, est une question fondamentale. On doit recréer un vrai réseau, un vrai maillage, une vraie toile de solidarité qui est la seule façon de ce que chacun ne voit pas que le petit bout des choses qu'il fait, mais qu'on puisse voir l'ensemble de l'aide qu'il faut apporter. Il y a une misère terrible dans la région. Et donc, cette misère, elle vient de ce que des gens qui ont le droit à quelque chose n'y ont pas accès, mais elle vient aussi de la vie, des difficultés d'avoir du travail, etc. Et pourtant, les gens ont le droit de vivre et de vivre normalement. Et pour ça, ils ont besoin de la solidarité des autres.
Et pour attirer l'attention du public sur ce sujet-là, est-ce que vous organisez des événements?
Alors, la Ligue des droits de l'homme, mais aussi d'autres associations, évidemment, essayent d'organiser des débats, des rencontres autour d'un film ou des choses comme ça. Avec le Covid, toute cette activité a été mise à mal.
Oui.
Et il est très difficile de repartir, de remotiver pour faire ça. Mais oui, il y a ça. Et puis, il y a aussi les interventions dans les lycées, les collèges, les écoles, afin de faire comprendre ce que c'est que la non-discrimination. Qu'est-ce que c'est que le racisme? Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? Tout ça, ce sont des notions qu'il faut apprendre aux jeunes. On a besoin que les jeunes s'engagent dans cette direction. Et ils ont envie de le faire. Ils ont envie de le faire. Et on le voit beaucoup, par exemple, dans le domaine de l'environnement, l'écologie. On voit comment ils sont marqués, traumatisés par cette idée de quelle planète on aura demain. Et c'est aussi quelle solidarité aurons-nous demain? Comment allons-nous faire pour vivre ensemble alors qu'il y a tant de différences entre les personnes du point de vue des revenus, du point de vue de la vie qu'on vit? Et là, il faut quand même qu'on arrive à continuer à être ensemble.
Et donc, vous évoquiez les débats, notamment après la projection de films. Ça, c'est ce que vous faisiez avant. Bon, on espère que vous allez pouvoir reprendre ça. En partenariat avec notamment des structures culturelles, vous diffusiez, par exemple, un film.
Voilà.
Ensuite, vous organisiez un débat sur un
par exemple, donné. Au Murau, là, il y a eu un film qui a été diffusé au cinéma des Muraux sur le parcours, par exemple, sur le parcours de demandeurs d'asile. Qui était interviewé, qui chacun racontait son histoire et comment ça se passait. Eh bien, et le réalisateur, le film, c'est que peut-on, que puis-je espérer, que puis-je espérer. Et donc le réalisateur est venu, il a expliqué comment ça s'est passé, le déroulement du film, comment il a rencontré ces gens, comment il a fait pour parler avec eux, quelles étaient leurs craintes, et puis comment ça se passe ici dans la région. On a pu avoir des échanges là-dessus. C'est un exemple. Mais ça peut être aussi sur un film qui va expliquer le traçage sur Internet et pourquoi il faut faire attention avec son téléphone portable et avec son ordinateur, parce que des entreprises vous observent et vous enregistrent et vous tracent et font votre profil. Ça peut être ça.
Un mot sur l'expulsion l'année dernière, au mois d'août, l'expulsion des familles roms du bidonville dissous.
Moi, je connais un petit peu la problématique des roms dans la région. Donc, il y avait un bidonville,
oui.
Plus qu'un bidonville, donc des roms à Issous, mais il y en avait un ici, à Buchelet.
À Buchelet, oui.
À Buchelet. Donc, tous ces gens venaient d'un bidonville qui était à Triel, et qui avait été, après 10 ans, qui avait été détruit par la préfecture, après qu'une partie de la population ait pu installée, mais une partie n'était pas installée, donc il a été détruit, donc les gens sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont été à 15 km, à 20 km, et ils se sont installés, et évidemment dans des squats. Et là, la vie en squat, ça veut dire pas d'eau, pas d'électricité, voilà, vivre dans une ruine, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça? Eh bien, ces gens ont quand même des droits. Les enfants ont le droit d'aller à l'école. C'est-à-dire que même s'ils occupent, sans titre, sans droit, s'ils occupent un lieu, les enfants, ils ont le droit d'aller à l'école. La mairie ne peut pas refuser. Elle doit, les enfants doivent. Parce que c'est par là que les choses commencent. La deuxième chose, c'est qu'il y a la domiciliation. La domiciliation, c'est ce qui fait que des gens qui sont à la rue ou dans des situations transitoires, qui n'ont pas d'adresse, puissent avoir une adresse postale dans laquelle on peut leur envoyer tout ce qui concerne la justice, la police, les droits, etc. Et cette domiciliation, elle doit être donnée par la mairie. Il y a aussi des associations, c'est Déclic qui fait ça, qui aussi complète le dispositif. Les CCAS ont le devoir de domicilier les populations qui sont sur notre territoire. Depuis quelques années, une nouvelle loi a bien précisé les choses. Ceci est une attribution du CCAS qui doit se faire. Et donc, il suffit que la personne ait été consultée et consulté un médecin dans la ville ou ait été chercher de la nourriture au Resto du Cœur ou travailler avec une association pour essayer de l'aider à s'intégrer ou aider des enfants à l'école pour que la mairie soit chargée de les domicilier, c'est-à-dire de leur donner une adresse postale. Et ça, c'est un message qui est extrêmement difficile de faire passer, par exemple, dans nos villes ici. Parce que c'est une population, les Roms, que l'on n'aime pas trop voir. S'il y a une population qui est discriminée, c'est bien la population Roms. Il faut dire que c'est pas facile. Ils ont un mode de vie qui est difficile pour nous à saisir, à comprendre, et qui sont difficiles à intégrer. Mais néanmoins, c'est la charge des collectivités locales comme de l'État de faire leur possible pour qu'ils puissent s'intégrer et accéder à une vie normale. Et là, voilà. Alors, à Issou, bien sûr, quand il y a un squat, au bout d'un moment, le propriétaire peut demander à ce que les gens soient expulsés de leur terrain. Mais ça peut être aussi le maire qui juge que, en fait, leur façon de vivre ne permet pas, est trop risquée, c'est-à-dire qu'on risque un accident. Et donc, on préfère les mettre dehors, à la rue, plutôt qu'ils restent là, à l'abri, avec un risque d'accident. On voit bien l'hypocrisie du système. Néanmoins, c'est bien comme ça que ça se passe. Au bout d'un moment, il y a expulsion. Alors que les gens font leur bagage, la préfecture dit « Ah, mais on va donner à chacun un hébergement, parce qu'il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas expulser s'il n'y a pas... » Alors, on leur donne 3 jours dans un hôtel, et après, terminé. Et donc, les gens reprennent leur errance, et ils vont s'installer de ci, de là. Donc, les gens parcourent comme ça tout le territoire, de squat en squat.
Merci à vous, Alain Boudou, d'avoir accepté notre invitation.
Voilà.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez l'écouter le samedi à 15h et le jeudi suivant à 19h30. Et vous pouvez également retrouver cette interview en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle association. Très bonne journée à l'écoute de BPM.